Bien. Merci beaucoup. Merci. Et c'est vrai, c'était ma fête hier. Et merci pour vos prières, merci pour votre soutien. Et j'ai eu 51 ans. Alors, c'est bien. Et je trouve que pour moi, dans ma culture, vieillir, ça prend de la valeur. Hein? C'est pas l'inverse. Donc, quand je prends de l'âge, ça ne me dérange pas du tout. Je suis content de prendre de l'âge. L'inverse, je ne l'accepterai pas, par exemple. Mais prendre de l'âge, c'est bon. Plus l'or prend de l'âge, plus sa valeur monte, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi nos aînés dans l'Église, moi, je les appelle les bibliothèques à deux pattes. Hein? Parce que c'est beaucoup de connaissances qu'ils ont, beaucoup de savoir, et qu'on ne peut pas trouver au clic de la souris. Et beaucoup d'expérience. Et chez nous, il y a un philosophe africain qui s'appelle Amadou Ampateba et qui est décédé. Il a dit, chaque personne âgée qui meurt en Afrique, c'est une bibliothèque nationale qui brûle. Est-ce que cela est vrai, non? Alors donc, je crois à cela. Une personne âgée, pour cela, nous devons prendre soin de nos aînés. Il est de notre part, notre responsabilité de prendre soin d'eux. Ils ont tellement donné. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes à notre société pour que nous soyons dans une société conviviale, une société qui est bonne, une société qui fonctionne bien. À notre tour, en reconnaissance pour ce qu'ils font pour nous, c'est de prendre soin d'eux, d'avoir d'attention pour eux, de les aider quand ils ont besoin, sans attendre qu'ils nous appellent. Et s'ils nous appellent, ben, on doit aller à la vitesse pour le faire. Et c'est ainsi que nous allons montrer au monde que nous sommes différents. C'est ainsi que l'Assemblée chrétienne du Cap sera faire la différence dans notre société. C'est ainsi que nous montrons à nos enfants et à nos petits-enfants que quand nous allons vieillir, comment ils doivent prendre soin de nous. Quelqu'un dit, si tu veux, un lépreux veut savoir comment ses funérailles vont se dérouler, qu'il assiste aux funérailles d'un autre lépreux. Comprenez ça? Ok, ça voudrait dire que si tu ne prends pas bien soin des autres, tu es en train de dire aux autres comment ils vont prendre soin de toi. C'est ça. Alors ce matin, je voudrais me réjouir en vous disant merci pour ce que vous avez fait pour moi, pour vos prières. Mais on va entamer la deuxième partie du sujet que nous devrons toucher, qui est toucher au ciel pour changer la terre. À l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine, pour ceux qui ne le savent pas ou ceux qui entrent pour la première fois ici, nous avons commencé un nouveau sujet qui s'appelle « Toucher au ciel pour changer la terre » depuis le dimanche dernier. Et l'objectif de cela est que nous voudrons passer par la prière pour toucher notre ciel, notre Dieu, et pour qu'à travers cela, qu'il transcende en nous et qu'il fasse des merveilles sur la terre. Amen. Alors, j'ai parlé dimanche dernier, pour faire un petit résumé. Bon, je suis allé trop vite. Hein? Alors, ce qu'on va voir, c'est ça. Mon plan d'action. Introduction, appel à la persévérance, définition de la persévérance, l'exemple biblique de la persévérance, les obstacles à la persévérance, conclusion. On va terminer comme ça. Alors, si nous venons au départ, et c'est ça, ici. Alors, on a parlé réellement la semaine dernière que si nous voulons changer le monde, nous pouvons le faire. D'autres avant nous l'ont fait. Et d'autres dans notre société essayent de transformer notre monde. Et je vous ai parlé de deux personnes. Qui se souvient au moins du nom d'une personne? Hein? Vinkem. Non, non, non. Je vous ai parlé de qui? Personne ne se souvient? Bertrand Picard. Et c'est vrai. Bertrand Picard, tu as regardé tes notes? Bon, voilà. J'ai parlé de Bertrand Picard. Et j'ai parlé de qui d'autre? Guy Laliberté, le clown milliardaire qui est monté dans l'espace. Hein? Et ces hommes-là sont allés dans l'espace uniquement pour nous prouver que nous pouvons changer notre comportement, que notre société doit changer de façon de vivre. C'est ça qu'ils ont décidé de faire. Bertrand Picard a volé dans un avion solaire pour montrer au monde entier qu'on peut utiliser l'énergie propre et diminuer notre CO2 à moitié pour être dans une société conviviale, propre et nette. Et Guy Laliberté, pour lui, c'était par rapport à l'eau potable. On a vu cela. Et je vous ai parlé, en réalité, des hommes de Dieu qui ont changé le monde de leur temps. Et je vous ai parlé réellement de Élie. Élie, par sa prière, a fermé le ciel et il l'a ouvert à volonté comme il veut. Sous la domination et la puissance de Dieu. Il a prié. Par sa prière, il a provoqué une calamité sur la face de la terre en tout Israël. La sécheresse est rentrée. Et par sa prière, il a apporté la prospérité et la vie a repris en Israël. Et je vous ai parlé des apôtres. Eux aussi, quand ils sont restés dans la chambre haute, ils ont prié. Quand le Seigneur les a quittés. Ils sont allés dans la chambre haute, ils ont passé du temps à prier pour recevoir la promesse qui est faite. Et quand ils ont reçu la promesse, dans Actes chapitre 2, ils sont sortis. 12 personnes ont bouleversé le monde. Alors ces gens-là, par la prière, ils ont pu transformer, ils ont eu de l'impact sur les gens de leur temps. Et nous aussi, nous pouvons avoir de l'impact sur les gens de notre temps. Parce que l'Écriture nous dit que Élie était de la même nature que nous. Donc, il avait le même Saint-Esprit, il avait la même puissance, il avait le même Dieu que nous. Et son Dieu n'a pas changé, c'est le même Dieu qu'on a. Alors, donc, ça voudrait dire que nous pouvons, par la puissance de l'Esprit de Dieu en nous, transformer notre monde. Et nous, en tant qu'Église, nous voulons changer le monde. Pourquoi ? Pourquoi nous voulons changer le monde ? Nous voulons changer le monde selon les plans de Dieu, selon la valeur de Dieu, parce que notre monde est mauvais. Parce que notre monde ne répond pas aux critères de Dieu. Parce que notre monde ne répond pas aux exigences de notre Dieu. Parce que jusqu'à présent, le règne de Dieu qui n'est pas contesté dans le ciel est contesté sur la terre. Et c'est pourquoi nous voudrons apporter un changement. Pour que sur la terre que Dieu a créée, que la volonté de Dieu qui est exécutée au ciel sans problème, s'exécute sur la terre sans aucune contestation. Et cela ne peut se faire autrement que par la prière. Et tous les grands hommes qui nous ont précédés ont fait une chose, leur appui solide, c'est la prière. Ils n'ont jamais rien pris de décision sans passer par la prière. Et nous ne pouvons pas faire différemment. Nous pouvons essayer, mais ça ne marchera pas. Nous pouvons essayer, le résultat sera éphémère, ça ne sera pas durable. Amen. Et c'est pourquoi nous voulons passer par la prière. Ces hommes-là ont travaillé, ils ont changé. Maintenant, ma question ce matin. Voulez-vous changer le monde, vous? Non, je vais vous écouter cette rangée-là. Voulez-vous changer le monde? Non, on va voir. Vous voulez changer le monde?
Oui.
Et là-bas?
Oui.
Yes, et c'est ça. Maintenant, je reviens à vous. Est-ce que vous voulez changer le monde?
Oui.
Ah, c'est encore froid. C'est bon, merci. Et nous voulons changer le monde. Comme assemblée de Dieu, nous sommes des chrétiens. Dieu ne nous a pas sauvés pour décorer la planète. Vous êtes d'accord avec moi? Il a assez de fleurs et de plantes pour décorer la terre. Alors, si nous, il nous a sauvés, c'est parce qu'il veut faire des choses importantes avec nous. Il n'est pas incapable de faire ces choses-là tout seul. Il peut le faire parce qu'il a créé la terre et les cieux, il n'a pas eu besoin de nous. Il a créé les anges, il n'a pas eu besoin de nous. Il peut tout faire sans nous. Mais quand il nous met comme collaborateurs avec lui, comme partenaires, c'est un privilège. Et on ne devrait pas cracher sur ça. Amen. Et on devrait sauter pour saisir cela et travailler comme il faut. Alors, la persévérance dans la prière. Nous voulons faire changer le monde par la prière. La semaine dernière, j'ai parlé que nous devons apprendre à prier. Et si nous ne savons pas comment prier, nous ne pouvons pas changer notre monde. Et ces hommes qui nous ont précédés l'ont fait par la prière. Et nous voulons le faire par la prière, on doit savoir. Et comment prier? Je vous ai montré l'exemple que les disciples ont dit à Jésus, « Apprends-nous à prier. » Et le Seigneur leur a montré à prier. Il leur a donné un modèle. Ce n'est pas le seul modèle, il y a plusieurs modèles de façon de prier dans la Bible. Mais ça, c'était un modèle seulement que Dieu nous donnait, comment prier. Alors, on commençait par la louange, et après, on continuait dans l'adoration. Et dans l'adoration, il y a la sanctification. Dans la sanctification, il y a la demande des requêtes. Et après ça, on termine par la doxologie, la louange encore. Ça, c'est une façon de s'approcher de Dieu. Tu ne débarques pas dans le salon de Dieu en disant, « Seigneur, je suis venu te demander ça, donne-moi ça. » Est-ce qu'il va donner? Vous-même, quand on vous demande dans la rue, « donne-moi ça, est-ce que vous allez le faire? » Non. J'ai un cousin en Afrique qui m'a appelé pour demander de l'aide. Ça faisait 20 ans qu'il ne m'avait pas appelé. Qu'on ne s'était pas vu. Le téléphone sonne, je prends le téléphone. Il me dit, « Bonjour Adama. » Je dis, « Bonjour. » Il dit, « Envoie-moi 250 euros. » Voilà comment il a dit. Envoie-moi 250 euros. Et je lui ai répondu, ouais, dans le compte dont tu m'as donné la procuration dessus là. Il dit, mais pourquoi tu parles mal comme ça? Je lui ai dit, toi aussi tu demandes mal. Si tu sais demander bien, je te donnerai. On ne peut pas demander à quelqu'un comme ça. Depuis 20 ans, tu ne l'as pas vu. Et puis tu appelles. Alors c'est pour demander, donne-moi 250 euros. Il me dit, mais moi j'ai mon enfant à mettre à l'école. Moi, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas moi qui a dit de mettre ton enfant au monde. Ce n'est pas moi qui l'a fait avec toi. Alors quand tu le faisais, tu n'as pas demandé ma position, ma décision. Alors tu ne peux pas compter sur moi pour prendre soin de lui. Alors même si c'est le cas, tu dois demander avec sagesse et douceur. Ma femme et moi, nous essayons d'aider beaucoup de personnes dans la famille et ailleurs. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Pourquoi je dis tout ça? Que quand on demande quelque chose à Dieu, il y a une attitude, il y a un comportement pour pouvoir le faire. Sinon, ça ne marche pas. Amen. C'est clair ça? Ok. Mon point ici, je vais vous amener à comprendre que la persévérance dans la prière est très importante. Politiquement, Abraham Lincoln a été un homme persévérant. Persévérant pendant plusieurs années. Et quand il a grandi, il a commencé à travailler. Et il est devenu, il est formateur, il est avocat de formation. Il a été élu. Quand il est rentré en politique, il a, en 1832, il a fait échec. La première élection, il fait échec. En 1934, élu. 36, élu. 38, élu. 40, élu. 42, échec. 44, échec. 46, élu. 48, échec. Pause. Il prend pause. Se repose. Et après, il repart en politique encore de nouveau. Alors, en 48, en 58, il fait échec. Ça ne marche pas. Et plus tard, tout cela, pourquoi? Et en 1860, Abraham Lincoln est nommé et élu 13e président des États-Unis. 13e président des États-Unis. Il a persévéré. Échec, 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 élu, échec, élu, échec, élu. Mais il a persévéré et il a finalement abouti président des États-Unis. Tout cela pour le mener à être président des États-Unis. Dieu l'a fait passer par beaucoup d'étapes. Il ne s'est pas découragé. Il n'a pas lâché prise. Est-ce que vous savez aujourd'hui c'est quoi? C'est quelle date? 6 novembre. Est-ce que vous savez, c'était un hasard, c'était un add-on, on pourrait dire. Ça faisait 156 ans que Abraham Lincoln est nommé président des États-Unis. Aujourd'hui, jour pour jour. Calculez. De 1860, le 6 novembre 1860, 6 novembre 2016, ça fait 156 ans. Jour pour jour. Et cet homme a été un homme persévérant. Il a marqué les gens de son temps. Plusieurs passages de l'Écriture nous appellent à la persévérance, n'est-ce pas? La Bible nous dit, dans Colossiens 4, 2, il dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Et cela vous dit quoi? Quand on vous dit de persévérer, qu'est-ce que vous entendez au travers de ça? Hein? Ne pas lâcher, ne pas baisser les bras. Et puis quoi d'autre? Qu'est-ce que ça vous dit? Persévère. Quand ton papa te dit « Persévère », demandez sans cesse, continuez. Vous êtes en train d'essayer d'expliquer. Moi, je veux savoir, le mot persévérance, là, il y a quoi à l'intérieur de ça? Jour après jour, il y a la foi. Et puis, quoi d'autre on peut voir dedans? Persistance. Lâche pas. Persistance. Ça voudrait dire que ce n'est pas facile. C'est difficile. Quand on parle de persévérer, c'est parce que c'est difficile. Quand c'est facile, on ne dit pas persévère. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Personne ne dit à son enfant, persévère quand c'est facile. Hey, tu es capable là, vas-y, go. Mais quand on dit persévère, on encourage, c'est parce que c'est difficile. C'est parce qu'il y a des obstacles, c'est parce qu'il y a des problèmes. Alors on dit persévère. Amen. Alors l'Écriture nous dit, priez sans cesse. Priez sans cesse, continuellement. Priez sans cesse. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction. Persévérez dans la prière. On dit persévérer dans la prière, on dit, il y a des afflictions. Il y a des afflictions, il y a des difficultés. Alors, persévère. Maintenant, si nous regardons la définition de la prière, de la persévérance dans la prière, tout cela pour vous dire que si nous ne persévérons pas, nous n'allons pas pouvoir transformer le monde qui est à nous, que Dieu met à notre disposition. Persévérer, c'est continuer. de penser et de faire quelque chose en faisant preuve de ténacité. En bon québécois, on nous dit « sois tough ». Hein? « Sois tough ». Ou bien on va te dire négativement quand on dit « il est boqué ». Ça veut dire quoi? Quand on dit « il est boqué dessus », il est têtu. Alors je te dis « sois têtu dans la prière ». Soyons têtus dans la prière, c'est ça. Persévérons. Ça ne veut pas dire « sois têtu dans la prière », ça ne veut pas dire « va à l'encontre de la volonté de Dieu ». Tu persistes, pourquoi? Parce que tu as un ennemi qui ne veut pas ta bénédiction. C'est pourquoi tu persévères, sois têtu dans la prière. Le contraire de cela, qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Le contraire, pas l'Écriture, le dictionnaire. Le contraire, c'est quoi? C'est abandonner, capituler, céder, et cesser, lâcher, et laisser tomber, renoncer, désister. Quand quelqu'un fait ça, comment on l'appelle? Quelqu'un qui ne tient pas en lui? En bon québécois, là, les québécois, c'est un lâche. C'est un lâche. Quand on dit à quelqu'un qu'il est lâche, ça voudrait dire quoi pour vous? Hein? Paresseux. Il ne veut pas faire d'efforts. Il veut tout avoir cuit dans le bec. Il ne veut rien faire. C'est ça qu'on dit. Mais l'Écriture nous dit de persévérer. Quand on persévère, c'est le contraire de tout ce que nous venons de voir tout à l'heure, en dessous. Alors, si c'est vrai, qu'est-ce que persévérer dans la prière? La prière dans la persévérance, c'est quoi? On va regarder cela ensemble. Persévérer dans la prière, c'est tenir ferme, demeurer dans la prière, ferme aussi. C'est être constant, prier avec patience, prier continuellement malgré l'obstacle, ne pas lâcher, ne pas abandonner. Ne pas lâcher, ne pas abandonner. C'est-à-dire que quoi? Quand tu te mets à prier, « Seigneur, je veux que tu me donnes un mari. » Est-ce que vous ne faites pas ça? Ou bien c'est moi seul qui prie pour avoir une femme? Moi, j'ai prié, j'ai eu ma femme, j'ai une bague. Ça fait 18 ans maintenant. 18 ans? Oui, 18 ans. Elle n'est pas dans la salle. Mais quand tu demandes cela, tu dois le faire constamment, tu dois demeurer dans cette prière-là, tu dois le faire de tout cœur. Mais si tu dis, Seigneur, donne-moi une femme, puis après tu t'arrêtes là, tu n'es pas sincère, est-ce que vous penserez que le Seigneur va le faire? Ta prière n'est pas sincère. On va voir tout ça. Quand on prie, on demande quelque chose, on doit continuer, on ne lâche pas. On persévère jusqu'à ce qu'on obtient un résultat. Et quelqu'un a dit ceci, prier, c'est bien. Prier quotidiennement, c'est mieux. Mais prier avec persévérance, c'est alors donc nous allons apprendre à prier d'une manière excellente. Prier quotidiennement, c'est bien. Mais prier avec persévérance, c'est excellent. Donc, nous devons prier avec l'excellence. C'est l'excellence que nous voulons. Quand nos enfants vont à l'école, on veut l'excellence. Quand tu travailles, ton patron demande l'excellence. Ta femme demande l'excellence chez leur mari, n'est-ce pas? Toutes les femmes veulent que leur mari soit excellent. Même la mienne, elle veut que je sois excellent. Je dis, mais ça ne suffit pas, tout ce que je suis présentement. Elle dit, non, il faut que tu sois excellent encore. Vous comprenez? Donc, nos femmes veulent l'excellence, notre société demande l'excellence. On ne veut pas à moitié, 10%, 15%. Non, on veut 100%. Même des fois, on demande 105%. Priez. Encore nous dit, la persévérance dans la prière, c'est le secret des vainqueurs. La prière, la pierre angulaire de tout succès et de toute victoire. C'est la pierre angulaire de toute victoire. Si tu ne persévères pas, tu n'as jamais rien au bout. Quand nos enfants vont à l'école, on a beaucoup de décrochages. Qu'est-ce qu'on fait? On a créé des situations, des écoles intermédiaires pour pouvoir les accrocher. Parce qu'ils ont décroché, n'est-ce pas? Et il y en a plein. Je ne veux pas juger personne, mais je veux dire que pourquoi on fait cela? On veut que notre société soit meilleure et que ces gens qui ont décroché là, on veut les aider. Pourquoi ils ont décroché? On va dire que c'est multifactoriel. Je suis d'accord, mais la plupart du temps, c'est manque de persévérance. Ils n'ont pas persévéré. Les couples qui sautent, beaucoup de couples divorcés, ou même qui sont à l'église, ils sont ensemble, ils marchent ensemble, mais ça ne va pas. C'est la façade. Ça chauffe dedans. On dit on est chrétien, il ne faut pas qu'on sache que ça ne va pas. Ça ne va pas. Oui, mais je ne crois pas au divorce. Je suis d'accord. Nous, moi aussi, je ne crois pas au divorce. Dieu ne croit pas au divorce. Mais le mariage n'est pas une prison pour payer sa dette à la société. Non. Le mariage n'est pas une prison pour payer sa dette à la société. Le mariage, c'est un don de Dieu, un plan de Dieu pour qu'on soit heureux dedans. Ce n'est pas une prison. Le mariage, ce n'est pas un camp de concentration. Non, on doit être heureux. On s'est marié parce qu'on s'aime. Et quand ça ne va pas, on doit s'asseoir pour trouver les solutions ensemble. On ne court pas au divorce. Le divorce, ce n'est pas la bonne porte à prendre. Mais c'est de s'asseoir et trouver les vraies solutions. Amen. Donc, on persévère. La plupart du temps, ceux qui divorcent, beaucoup manquent de persévérance. Je ne les juge pas. Je ne connais pas peut-être tous les détails. D'autres ont divorcé parce que le divorce leur a été imposé. Mais certains divorcent parce qu'ils ne veulent plus mettre d'efforts dans le couple. Un point, un trait. Est-ce que je me trompe? Nous sommes le peuple de Dieu. Nous devons être honnêtes, intègres envers nous-mêmes. Quand ça ne va pas, puis Djuma Traoré habite chez nous depuis combien de temps? Bientôt 10 ans. Si ça ne va pas dans mon couple, il le sait. Si on se dispute à table devant lui, on se dispute devant lui. Si on le règle aussi, on le règle devant lui. Je n'ai pas sorti pour venir devant vous faire un sourire comme ça, tout va bien, puis à la maison, il y a le feu. Non. Il faut être honnête et faire les choses. La persévérance est la clé pour le succès. Si nous voulons transformer le monde, si nous voulons gagner le monde, si nous voulons que la terre touche le ciel et gagner et transformer le monde, alors nous devons prier avec persévérance. Et prier avec foi, prier avec persévérance pour pouvoir transformer notre monde. Alors nous allons regarder un exemple biblique ce matin. Ouvrons nos Bibles dans Luc chapitre 18, s'il vous plaît. Ça, c'est la veuve persévérante. L'exemple de cette veuve-là, Jésus la donne. Il donne l'exemple de cette veuve-là pour nous aider, pour aider les disciples à marcher et à persévérer. Je vais le lire. Luc chapitre 18, à partir de verset 1. Il dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice à ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme reviendra ou viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ? » Voilà ce que l'Écriture nous dit. C'est ça. Jésus donne une parabole. Si je vous demandais, c'est quoi une parabole ? Un exemple. Ça peut être quoi d'autre qu'une parabole quand on parle d'une parabole? Hein? C'est un enseignement, une image. Un enseignement que Dieu donne. Il prend une image pour essayer d'expliquer des vérités célestes, des vérités divines. Alors il dit que pour que les disciples prient et qu'ils ne se relâchent point, c'est comme ça le texte commence. Tout ce qui vient après, c'est pour appuyer le premier verset. Tout ce qui vient après, c'est pour ne pas que les gens se relâchent dans la prière, qu'ils continuent de prier. Alors l'histoire de la femme-là devient un moyen pour appuyer. C'est comme une salle est sombre et tu ouvres une fenêtre, la clarté du jour rentre, ça éclaire, n'est-ce pas? Alors l'image-là, c'est pour éclairer encore le texte et appuyer. Le juge unique, la veuve, une veuve-là, si on vous demandait là, à l'époque de Jésus, là, une veuve, là, elle n'était rien. Elle n'avait pas d'argent, elle était pauvre, elle était misérable. Si les gens ne lui venaient pas à l'aide, elle ne pouvait rien faire. Ce n'était pas comme les veuves de nos jours que quand leur mari meurt, ils ont encore une assurance d'argent qui est en banque là. Et puis après, ils se permettent de prendre un avocat. Ce n'est pas comme ça, là. Ce n'est pas notre temps, là. Certaines veuves parmi nous, pas toutes les veuves, je le sais. Mais au temps de Jésus, les veuves étaient misérables, elles n'avaient rien. Et Jésus prend l'histoire de cette veuve-là, qui va voir un juge. Elle lui dit, fais-moi justice à ma partie adverse. L'Écriture ne nous donne pas tout le détail, mais c'est qu'il y avait un problème. Et cette femme demande que justice soit faite. Et nous savons que dans la parole de Dieu, Dieu dit que nous devons prendre soin des veuves et des orphelins, les protéger, les défendre. Mais ce juge n'avait aucune crainte pour Dieu, ni aucune crainte pour personne, et il refuse de faire justice pendant longtemps. Mais il va finir par rendre justice. Pourquoi? La raison, c'est quoi? Elle a insisté. L'Écriture nous dit qu'elle a insisté. Si nous regardons, on dit pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me... » Exact. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Je vais lui faire justice. Peut-être que ce juge attendait un pot de vin, des enveloppes brunes. L'Écriture ne nous dit pas, c'est des suppositions. Mais en réalité, la madame, elle avait droit à la justice. Elle a persévéré. Le juge lui a rendu justice parce qu'elle a persévéré continuellement. Ce qui est différent dans cette histoire, c'est que ce juge-là, on dit que c'est un juge unique, c'est un juge qui est mauvais, méchant. Il est méchant. Et la madame, il n'a même pas pensé à la condition de cette veuve-là pour dire, « Ah, elle est veuve, elle n'a pas de mari, elle n'a personne pour la défendre. Moi, elle vient me demander de l'aide. Au moins, en tant que juge, je vais lui faire justice. » On dit, il a refusé pendant longtemps. Pourquoi il a refusé pendant longtemps? Et puis maintenant, il finit par donner. La persévérance nous permet d'obtenir ce qu'on veut. La persévérance. Je ne connais pas ta condition ce matin. Peut-être tu es malade, tu cherches une guérison. Peut-être dans ton travail, ça ne marche pas avec ton patron, il y a beaucoup de difficultés, tu souffres. Peut-être que dans ta famille, il y a des problèmes difficiles. Dans la société elle-même, autour de toi avec ton voisinage, et tu fais tout. Tu demandes qu'on te fasse justice, et puis on ne te fait pas justice. Mais je te dis, persévère. Dieu te fera justice. Persévère, ne lâche pas. Persévère dans quoi? Dans la prière. Persévère dans quoi? Dans la bonne attitude. Cette madame qui est veuve là, elle a persévéré, mais l'Écriture ne nous dit nulle part qu'elle a insulté le juge. L'Écriture ne nous dit nulle part qu'elle a calomnié le juge. L'Écriture ne nous dit nulle part qu'elle a discriminé ou bien elle a descendu ce juge-là. Mais l'Écriture nous dit qu'elle a persévéré. Toi, persévère. La vie est dure, ne lâche pas, tiens bon. Ton enfant te fatigue, tiens bon. Tes enfants sont dans des situations compliquées, difficiles, ça te fait honte, mais lâche pas, persévère. Et Dieu te fera justice au temps convenable. Si nous voulons changer notre monde, si nous voulons transformer Trois-Rivières, nous voulons transformer le Québec et le Canada, nous devons être des chrétiens qui ont la foi et qui prient avec persévérance, ayant l'espoir au Dieu des cieux qui va faire justice. Et l'Écriture, à la fin, va nous dire que cette veuve-là, que Jésus prend l'exemple sur cette veuve-là, et puis il va dire, ce juge unique-là, qui est méchant, a fini par céder. Alors, combien Dieu qui est bon, n'est-ce pas? Notre Dieu qui est bon, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Est-ce que vous êtes des élus de Dieu ici? Sommes-nous des élus de Dieu? Nous avons été élus, engendrés en Jésus-Christ. Et si nous sommes des élus de Dieu, Jésus est en train de dire que si nous crions à notre Père, il va répondre. Il n'est pas comme ce juge unique qui est méchant. Lui qui est bon par nature. Et l'Écriture nous dit dans Matthieu chapitre 7, il dit, lequel des pères donnera-t-il un serpent à son enfant quand il lui demande un pain? Ou bien donnera-t-il des cailloux à son enfant quand il lui demande un œuf? Il dit, méchant comme vous êtes, et méchant comme nous sommes capables de donner des bonnes choses à nos enfants. Alors combien le Père dans le ciel nous donnera le Saint-Esprit, Le Saint-Esprit, c'est la meilleure, la troisième personne de la Trinité dans le ciel. Et Dieu dit, la meilleure des choses, il peut nous donner. S'il nous donne le Saint-Esprit, il y a quoi d'autre sur la terre qu'il ne peut pas nous donner? Je vous demande, si Dieu nous donne le Saint-Esprit, dites-moi, il y a quoi d'autre sur la face de la terre que Dieu est incapable de nous donner? Est-ce qu'il y en a? Alors, si nous ne l'avons pas, c'est parce que nous ne prions pas comme il faut. Si nous ne l'avons pas, c'est parce que nous ne demeurons pas dans la persévérance, dans la prière. Alors, on va voir tout ça tantôt. Notre Dieu est bon. Et cette veuve-là, elle a fait quelque chose. Dans les applications qu'on peut trouver ici, elle a demandé sans se décourager, avec persévérance. Sa cause était juste. Même si le juge ne voulait pas, mais elle croyait à sa cause. Sa cause était juste, elle a demeuré fidèle, elle a demandé. Et deuxièmement, nous, notre juge, comme je l'ai dit, son juge était méchant, mais nous, on a un bon juge. Il nous aime. On l'appelle papa. Quand nous rentrons dans sa présence, on ne vient pas à lui comme un juge, on vient à lui comme un père. Et c'est ce que Jésus dit dans la prière modèle que je vous ai enseignée dimanche passé. Il dit, si vous priez, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel, n'est-ce pas? Et il nous dit tout cela. Nous nous adressons à lui comme un père. Quand je m'adresse à mon papa, je n'ai pas peur. J'ai la quiétude, j'ai la sérénité. Il m'aime, il m'a mis au monde par amour. Et il ne me fera pas du mal. Mais quand tu rentres dans la présence de ton papa, si ton papa est président de la République, et tu rentres dans son bureau, tu dis, « Monsieur le Président, bonjour. » Tu es son fils, hein. Tu dis, « Monsieur le Président, bonjour. Je suis venu vous demander, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu serais en train de faire ?» Hop là, il vient de faire des dégâts. Qu'est-ce qu'on serait en train de faire si on fait ça? On serait en train d'appeler notre papa, on fera appel à ses fonctions présidentielles. On est en train de faire appel à sa fonction, à sa notoriété comme président de la République. On l'appelle, on dit, je viens demander, en tant que président de la République, je te demande ça, 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 ça. Mais quand je l'appelle papa, la notion change. C'est relation père et fils. Ce n'est pas relation président de la République avec un citoyen de sa nation. Vous êtes d'accord avec moi? Alors donc, quand nous nous adressons à Dieu, nous devons appeler papa. C'est notre père. Et c'est ce que Jésus nous demande de faire. Un deuxième exemple, quand les disciples ont prié dans la chambre haute. Ici, la première partie avec la femme veuve, nous voyons réellement une personne qui plaide pour sa cause, qui persévère dans sa cause devant un juge unique. Et ça peut être aussi toi qui persévères dans la prière devant ton Père. Persévérer, persévérer. Ta persévérance n'a pas pour but de changer la volonté de Dieu. C'est d'être dans la volonté de Dieu, mais je persévère jusqu'à recevoir la réponse de Dieu. Je prie. Mais dans l'acte des apôtres, quand les disciples prient dans la chambre haute, ils persévèrent dans la prière pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. Parce que dans l'Écriture, Jésus leur avait déjà dit dans Jean 14, « Quand je m'en serai allé, je ne vous laisse pas orphelin, je m'en vais, il faut que je m'en aille, sinon le Consolateur ne viendra pas. Mais quand je m'en serai allé, je vous enverrai un autre Consolateur, afin qu'il soit avec vous, il sera en vous, il demeurera avec vous éternellement. » Alors Jésus dit cela aux disciples. Et maintenant la promesse va s'accomplir dans Actes chapitre 2. Mais dans Actes chapitre 1, les disciples sont dans le haut lieu, dans la chambre haute. Le Seigneur est monté, ils ont quitté le mont des Oliviers. Il est parti. Eux, ils vont s'asseoir là-bas, ils commencent à prier. Ils font confiance à la foi et ils font confiance à Dieu qui a promis quelque chose pour eux. Donc, ils font confiance. Alors, ils sont galvanisés. Ils passent le temps dans la prière. Et en priant, ils persévèrent et ils demandent la promesse. Dans Actes chapitre 2, ils reçoivent la promesse de Dieu. Le Saint-Esprit descend sur eux. Les gens disent qu'ils sont devenus ivres, ils sont devenus des soulards. C'est ce que les gens disent. En Afrique, on dirait qu'ils sont die. C'est-à-dire qu'ils sont morts. Ils sont saoulés, ils sont ivres. Mais Pierre va se lever le jour de la Pentecôte, là, ce même jour-là, il dit non. Nous sommes seulement qu'à la 9e heure. On n'est pas ivres, nous autres, là. Et il va commencer à leur expliquer la promesse de Dieu, la volonté de Dieu. Et ce jour, 3000 personnes viennent au Seigneur. Amen. Parce qu'ils ont persévéré. Ils ont demandé. Ils ont reçu. Ils peuvent témoigner. Amen. Alors, si nous persévérons, et là, on dit qu'ils étaient dans un commun accord. J'aimerais que vous tiriez votre attention sur le mot « commun accord ». Ils étaient tous unis, ils étaient tous d'accord, ils avaient tous la même vision, dans un commun accord. Ils étaient en communion ensemble, à la même place, pour la même cause. La veuve, elle était seule qui plaidait pour sa cause. Ici, dans la chambre haute, c'est une communauté qui prie. C'est un groupe de personnes qui prient pour une cause commune, pour bouleverser le monde. Parce qu'ils vont recevoir l'Esprit de Dieu en eux et ils vont transformer le monde. Alors nous, comme Église, nous pouvons prier pour une cause commune. Nous avons un dénominateur commun, Jésus-Christ. Et nous avons une cause commune. Son plan depuis l'éternité, depuis la fondation du monde, pour transformer le monde et faire de nous une nation qui l'adore. Tout le monde, il veut que les peuples l'adorent. Alors nous devons faire partie de cela et continuer de travailler dans ce sens-là. Amen. Et c'est ça que Dieu veut de nous. Nous ne pouvons pas faire autrement. Maintenant, si je vous demandais quels sont les obstacles à la persévérance? Qu'est-ce qui nous empêche d'être persévérants dans la prière? Premièrement, le découragement. N'est-ce pas? Ah, Adama, tu sais, on demande. On n'a pas. Moi, je suis découragé. Je suis abattu. Je rencontre certains frères, on parle. Des jeunes, on discute. Ouais, mais disait, on dirait Dieu, il ne m'entend pas. Je ne sais pas. On dirait qu'il ne m'entend pas. Je prie, il ne me répond pas. Moi, ça me décourage. Mais cependant, je fais ça. Je chante à l'école, à l'église pour lui. Je suis dans le groupe de musique. Je suis dans la jeunesse. Je balais à l'assemblée tous les jours. Je suis en train d'aider les aînés. Je fais ça, mais je prie, il ne m'écoute pas. Comme exercer un ministère est une obligation de Dieu pour te répondre à ta prière. Si j'exerce un ministère dans l'église, ce n'est pas un droit que Dieu me donne. C'est un privilège. Moi-même, là, je suis en train de prêcher, là. Bon, je vais arrêter d'aller là-bas. Gilles Poulin, ta parole s'accomplit. Tu dis, je me promène trop, hein. Voilà. Je pense que tu viens d'avoir un point. Là, il fait la tête comme ça. Il dit, oui, oui. Et c'est une réalité. Alors, on pense que c'est un droit, c'est un privilège de servir le Seigneur. Ce n'est pas un droit. Si je prêche, l'Assemblée me permet, Dieu me donne le droit, la permission, le privilège de pouvoir le servir. Alors, ce n'est pas un droit. Si je sers dans la maison de Dieu, peu importe le poste où je suis, c'est un privilège. Je ne peux pas prendre ça comme un acquis, un droit pour dire, Seigneur, j'ai fait ça pour toi, alors donne-moi ça. Ce n'est pas un marchandage. Alors, si je viens dans ma prière, devant mon Père, je viens prier parce que j'ai confiance en lui. Parce que j'ai une relation de père et de fils. Père et fille, papa, j'ai confiance en toi. C'est toi qui dis dans ta parole. Dans Philippiens 4, tu dis, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Présentement, là, ma pensée n'est plus en Jésus-Christ, hein. Je suis troublé. Alors, je te demande de répondre pour que ma joie soit parfaite. Amen. Je ne viens pas, Seigneur, parce que tu sais, j'ai prêché cette semaine, hein. Seigneur, j'ai fait le ménage ici, hein. Alors pour cela, donne-moi ça. Non. Je viens avec la parole de Dieu et je prends Dieu au mot. Amen. Qu'est-ce qui nous décourage dans la prière? Les obstacles. Manque de patience. Manque de patience. Quand on demande tout de suite, on veut avoir tout de suite. Dieu n'est pas un guichet automatique. Quand tu vas à la caisse des jardins, là, tu mets ta carte, tchouk, 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 et puis ça sort. Tu t'en vas, tu es au volant de la voiture, là, tu appelles à AEW, tu arrives au service au volant. Ah, bon, je veux ça, on te donne. Maintenant, même à McDo, là, tu n'as plus besoin d'aller au guichet. Tu t'en vas devant un écran, là, puis tu composes, et puis on te donne un numéro, tu t'en vas attendre pour avoir ton pain. Dieu n'est pas notre guichet automatique. Est-ce que c'est clair? Tu ne peux pas demander et puis qu'il te donne ça tout de suite, s'il le fait à ta façon, entre toi et lui, qui est Dieu? S'il doit exécuter toi tes ordres là, entre toi et lui, qui sera Dieu? Ok, alors donc c'est pas toi qui es Dieu, donc c'est pas moi qui est Dieu, c'est lui qui est Dieu. Il donne à son temps, à sa façon, à sa manière. Amen. C'est pourquoi nous devons être patients. La patience aiguise notre foi. La patience nous permet encore de démontrer davantage que nous avons confiance en notre Dieu. La patience nous permet de prier avec rigueur. Et quand nous passons du temps dans la prière, en persévérant dans la prière, quand nous sortons, Dieu nous transforme et nous transformons le monde avec. Amen. Dieu nous transforme. Quand on sort de la présence de Dieu, on peut transformer le monde parce que sa puissance est en nous et on peut transformer le monde. Quand Moïse sort de la présence de Dieu après 40 jours de prière, qu'est-ce que le peuple dit? Moïse, jette un voile sur ta face. Et le brillait, sa face brillait. Elle brillait comme le soleil. Quand nous passons du temps dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu nous couvre. Et quand nous sortons, le monde résiste à la gloire de Dieu. Ils ne peuvent pas résister à cette gloire-là. Dieu change les choses. Moïse a été transformé par la gloire de Dieu et son impact dans la société a été évident. Pourquoi? Quels sont les obstacles qui nous empêchent de prier? L'authenticité de nos cœurs dans la prière. Jacques nous dit que si nous demandons, nous demandons mal. N'est-ce pas? C'est ce que l'Écriture nous dit. Jacques nous dit que nous demandons mal. Et nous ne demandons pas comme il faut. Et quand je demande, qu'est-ce que je fais? Si tu as mal à la jambe, et puis tu dis à Dieu, tu as mal à la tête, est-ce que ça va? Dieu sait que tu as mal à la tête, à la jambe, et puis toi tu dis que tu as mal à la... Tu as mal à la jambe, toi tu dis que tu as mal à la tête, et puis Dieu sait que tu as mal à la jambe, ce n'est pas à la tête. Penserez-vous qui va vous exaucer? Il connaît ton problème, il va répondre à ton problème de jambe, mais pas problème de tête. Si nous demandons quelque chose à Dieu, nous devons être authentiques. Tu ne peux pas mentir, tu ne peux pas cacher. Si tu as une plaie et que tu caches ta plaie, tu montes là où il n'y a pas la plaie, le médecin va soigner l'autre côté, mais l'autre côté là, ta plaie va pourrir. Et nous devons être authentiques. Il y a des gens, tu vas les voir, ils se lèvent pour prier. Tu as l'impression que le ciel est descendu sur la terre. Mais tout ce qu'il dit n'a rien à voir avec ses propres besoins. Il est là pour épater la galerie. Or, pourtant, il doit s'adresser à Dieu lui-même pour ses propres besoins. Mais lui veut épater la galerie. Donc, il finit, il prie, il n'a pas d'exaucement. Parce qu'il n'a pas prié pour la bonne chose. Nous devons être authentiques. Ah, les gens vont, qu'est-ce qu'ils vont penser s'ils savent que j'étais... C'est leur problème. Si eux, ils prient, ils ne devaient pas même avoir les oreilles pour entendre ce que toi, tu es en train de dire à Dieu. Alors, nous devons être capables de prier de cette façon. Les obstacles à la prière. Manque d'humilité. Ésaïe 59, versets 1 à 2. Il nous dit... Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, et ce sont vos crimes qui vous l'empêchent, qui l'empêchent de vous écouter. Le péché met une barrière entre nous et notre Dieu et l'empêche de nous écouter. Nous devons prier avec foi. Nous devons prendre le temps de prier avec humilité, confesser nos péchés, enlever toute barrière entre nous et Dieu. Et le Seigneur va nous écouter et on peut être exaucé. Parce que Dieu nous demande de demander. Et le manque de foi, demander sans douter. Et dans Jacques, il est dit que si nous demandons, avec doute, nous ne pouvons pas recevoir. De demander sans douter. Il dit, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il demande. Dieu va donner avec foi, il va lui donner avec joie. Mais s'il demande, s'il doute, il ne recevra rien. Le doute, c'est quoi? Je viens, Seigneur, je viens te demander quelque chose, mais en même temps, je dis, ben, il ne donnera pas où? Mais pourquoi tu vas demander si tu sais qu'il ne donnera pas? Pourquoi? Pensez-vous que Dieu nous invite à venir prier, à lui demander de l'aide, si lui n'est pas prêt à répondre à notre prière? Quand il dit dans les Écritures, demandez, vous recevrez, frappez, la porte vous sera ouverte, cherchez, vous trouverez, car quiconque demande reçoit, celui qui frappe la porte lui sera ouverte, et celui qui cherche trouve. Quand Dieu nous dit ça dans les Écritures, à votre avis, est-ce qu'il dit ça pour le plaisir de nous niaiser? Non, Dieu prend plaisir, il veut répondre à nos besoins, mais il veut que nous le fassions dans les règles de l'art. Amen. Lamentation nous dit ici que quand nous demandons, Lamentation 3, 24-26, il dit, ça c'est dans le français, dans la traduction vivante. Il dit, je me dis, le Seigneur est mon trésor, et c'est pourquoi je compte sur lui. Le Seigneur est bon pour celui qui met sa confiance en lui, pour celui qui le cherche. Et c'est une bonne chose d'attendre dans le silence le secours de l'Éternel. Dans la persévérance, on doit être capable d'attendre. Dans la persévérance, on doit toujours prier continuellement sans laisser l'ennemi ou l'adversité nous empêcher d'avancer. Dans la persévérance, dans la prière, nous devons être assidus, constants et avoir de la ténacité en nous. Dans cette persévérance-là, nous avons foi que le Dieu auquel on s'adresse est un Dieu qui s'appelle Yahvé Jiré, le Dieu qui pourvoira. À la montagne de l'Éternel, l'Éternel se pourvoira. Nous avons un Dieu qui guérit, Yahvé Raphé, et c'est le Dieu qui guérit de toute maladie, de tout problème. Il peut solutionner nos situations et nos problèmes. Alors quand nous nous adressons à ce Dieu-là, nous devons le faire de la bonne manière, avec persévérance, avec foi, parce que c'est un Dieu qui nous aime. C'est un Dieu qui a promis de pourvoir à nos besoins. C'est un Dieu qui dit que si on crie à lui, lui, il répondra. Il dit au jour du malheur, tu m'appelleras et je répondrai, me voici. C'est ce que l'Écriture nous dit. Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce que nous croyons à cela? Alors frères et sœurs, si nous voulons bouleverser le monde, nous devons prendre Dieu au mot, croire aux Écritures et prier à la base des Écritures, sur la promesse de Dieu. Sinon, ça ne marche pas. En conclusion, vous avez souvent entendu cette équation. Foi plus demande égale. Mais moi, je vous donne une autre équation. Foi plus demande, plus persévérance, égale réponse, plus témoignage. Amen. Si nous prions avec foi, si nous présentons nos demandes à Dieu avec foi que nous demandons sincèrement, si nous passons du temps dans la persévérance, à ne pas nous décourager, à ne pas laisser Satan nous décourager, personne nous décourager, alors le résultat sera une réponse de Dieu, plus témoignage, parce que quand Dieu répond, notre bouche sera remplie de témoignages et nous allons pouvoir le compter partout. Amen. Quand Dieu a bâti la maison que j'ai avec ma femme, que nous avons, je n'ai rien fait. J'avais un projet, prendre soin des personnes dans le besoin, exercer l'hospitalité. Et Dieu a suscité M. Paris avec ses enfants de venir nous aider. Il nous donne un terrain gratuit. Et le deuxième terrain que je vais acheter, il dit, je te vends à moitié prix. Et il dit, je bâtis la maison au prix coûtant. Alors, voilà comment Dieu a agi dans ma vie. Je n'ai pas de gloire à tirer de ça. Toute la gloire revient à l'Éternel. À part que j'ai tendu la main pour accepter la promesse et le cadeau que notre frère Dieu a voulu me donner au travers d'un frère. Et plusieurs frères et sœurs ici dans l'Assemblée sont venus donner des coups de main. Les guides du pont et tant d'autres personnes, je ne pourrais pas citer tout le monde, et Pierre Paquin, ils sont venus travailler, beaucoup de frères sont venus travailler à l'intérieur pour nous donner un coup de main pour que tout soit fait comme il faut. Est-ce que ce n'est pas un don de Dieu? Ce n'est pas une grâce de Dieu? Alors, prière, foi, demande, persévérance, égale réponse et témoignage. Je peux témoigner aujourd'hui. Et je dis aux gens, quand tu vois un poisson frais dans la gueule d'un chien, un poisson vivant dans la gueule d'un chien, ce n'est pas parce qu'il sait nager, c'est parce que Dieu lui a donné cela. Et ça, c'est mon cas. C'est un don de Dieu. Je ne peux en aucun moment me glorifier. De la gloire revient à l'Éternel, notre Dieu. Alors, prier avec persévérance, c'est de telles choses que ça fait. Alors, veux-tu être rempli de témoignages? Prie avec persévérance. Veux-tu voir Dieu changer le monde? Prie avec persévérance. Veux-tu voir les miracles et les merveilles de Dieu venir dans ta vie? Prie avec persévérance. Prions avec persévérance. L'Assemblée du Cap fera la différence dans le monde entier, à Trois-Rivières et ailleurs, parce que les fidèles fléchissent les genoux à terre. Et nous avons dit, un homme n'est jamais plus grand que sa vie de prière. On termine par ceci. Ah, c'est terminé là. Frères et sœurs, la prochaine fois, dimanche prochain, je ne continue pas, c'est Marco qui va enseigner. On va prier et je reviendrai le 20 et le 27 pour terminer cette partie sur comment toucher le ciel et changer la terre. Il y a d'autres suites qui vont venir. Amen. S'il vous plaît, on peut se tenir debout. Oui, Benoît. Oui. Non, il n'y a pas de problème, c'est bien. Alors, dimanche, allez-y voir Jean. Nous avons tous appris à prier en regardant les autres. Nous avons appris à prier en faisant, en voyant les autres faire. Allez-y écouter Jean. Il va donner beaucoup de bonnes choses. Vous allez voir des choses et vous allez pratiquer. On est tellement nombreux ici. Mon souhait était qu'on puisse prier, pratiquer la prière ensemble dans la salle. On est tellement nombreux, quand on va commencer, les gens vont penser qu'on est fou. Donc, on va allez-y dans des cellules comme ça. Dans les classes, vous allez pratiquer ce que c'est que la prière, comment prier, et puis comment intercéder, plaider, et tout cela. Jean va vous montrer. Amen. Parce qu'on ne veut pas que vous soyez des valises qui reçoivent de la connaissance et puis vous êtes assis, tranquille, on ne peut rien faire. Non, on veut que vous soyez des chrétiens, des, comme je vous ai dit l'autre jour, des Usain Bolt. Usain Bolt est un athlète de la prière. Que vous soyez des athlètes de la prière. Lui, il est un athlète. Dans les Jeux olympiques, nous, on veut être des athlètes de la prière. Amen. S'il vous plaît, tenez-vous debout, on va prier. Notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous donnes. Il est bon et agréable pour tes enfants de demeurer ensemble. Nous sommes ici, pas pour nous-mêmes. Nous prions et nous te demandons de nous donner les ressources nécessaires que nous avons besoin pour pouvoir transformer le monde avec toi. Pas parce que nous sommes forts, mais parce que toi en nous es plus puissant que toute autre chose. Et nous comptons sur ta puissance, nous comptons sur ton amour, nous comptons sur ta miséricorde, nous comptons, Seigneur, sur le Dieu puissant que tu es, que personne ne peut vaincre. Qu'en nous, tu puisses nous utiliser comme des instruments entre tes mains pour bouleverser notre société, en bien pour toi et pour ta gloire. Nous voulons que tu règnes pleinement dans nos vies premièrement et dans toute la planète pour la gloire de ton nom. Accompagne chacun de nous et tu connais les besoins de chacun. Fortifie-nous au nom et pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.